Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Pascal lui dit, tu veux que j'aille avec toi? Frédéric lui dit, je ne m'en vais pas, m'envoler. Ne te fais pas de soucis. Et puis, la voiture n'est pas là, c'est ma mère qui l'a prise. Et elle s'éloigne. Pascal dit, Frédéric, il faut la surveiller. Frédéric dit, ne te fais pas de soucis. Franck demande, pourquoi il faut la surveiller? Pascal dit, parce qu'elle est fragile. Frédéric revient avec un cordon électrique. Ouf, voilà. Elle le pose sur la table et retourne à la cuisine. La momie demande, faut vous aider? Elle lui dit, non, mettez-vous à table. Pascal dit, allons nous mettre à table. Noumi se met à côté de Jean-Yves. Pascal en face de Fred. Frédéric arrive avec le truc pour faire la fondue qu'elle pose sur la table. Une fois que tout est en place, il commence à manger. En plus du fromage qu'ils font chauffer, Fred fait chauffer son jambon. Franck et François se sont mis l'un à côté de l'autre et à côté de Frédéric. Frédéric regarde François et dit: qu'il est beau, mon petit amour. Jean-Yves demande: il fait du yoga? Demande: pourquoi? C'est pour se détendre. C'est bon, ça, après le travail. Frédéric dit: oula, on a bien besoin de se détendre. Avec ce qui se passe autour de nous, toute cette misère, c'est terrible. Je parle toujours à des SDF lorsque je les vois. Il y en a qui passent la nuit dans les WC, dans les WC publics. C'est terrible. Une fille m'a dit qu'elle était à deux doigts de se prostituer pour vivre. Franck dit: oui, c'est terrible. Il y en a qui se servent aussi de la misère pour leurs propres intérêts et promouvoir leurs idées. Mais tout ça ne les empêche pas de bien manger. Ils ont encore une bonne assiette de charcuterie. Puis Frédéric les fait rire en leur racontant les manies des clientes de son magasin de fleurs. Lorsqu'elle parle, elle rayonne. Elle rayonne. Elle sait bien mimer ses clientes. Elle sait merveilleusement bien raconter les choses. Puis elle se lève et demande: est-ce que vous avez assez mangé? On lui dit que oui. Elle leur dit: même pas pour un gâteau au chocolat? La momie dit: oh, ça, pour un gâteau au chocolat, je ne dis pas non. Fred fait: moi aussi. Et elle va à la cuisine. Franck dit: elle est délicieuse. Elle me fait penser à un film que j'ai vu à la télé, Le Monde de Claire. Elle rayonne comme la. Puis elle revient. Avec le gâteau. Mangeant le gâteau, la momie dit: vous êtes la fée Morgane, Frédéric. Oh, merci. Vous, Pascal, vous êtes la reine Geneviève. Fred, Lancelot, le chevalier à l'armure étincelante. Jean-Yves, Perceval, celui qui recherche l'absolu. Frédéric dit: mon Dieu, nous voici à la cour du roi Arthur. Franck demande: et nous? La momie lui dit: le jeune enfant, c'est Galahad, et vous, Galo. Celui qui représente la fidélité en amitié. Tous rient. La fée Morgane dit: moi, je lis dans les âmes et je sais ce que cachent les apparences. Tous se taisent. Elle dit: buvons à Galahad, le plus pur, le plus beau chevalier. Et ils boivent. Une fois qu'ils ont mangé leur gâteau, un beau gâteau au chocolat fait maison, elle leur dit: les hommes sont tous émus. Je ne dis pas ça pour vous. Tiens, ils devraient tous être comme François. Elle l'embrasse sous la joue et dit: ils ne sont pas sérieux. Il ne pense qu'à jouer, enfin. Avec moi, en tout cas. Et elle leur dit, sortons de table et allons nous asseoir. Ils sortent de table et vont s'asseoir dans des fauteuils et canapés où ils peuvent. Elle reste debout, s'étire et dit, c'est l'heure où je me défoule. Elle va au fond de la pièce, prend la terre, une guitare. Elle la lance gracieusement à Fred, qui a juste le temps de la rattraper, et lui dit, allez Fred, joue-nous une chanson. Joue, allez, joue.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets.
Alors, elle chante,
elle chantait avec
tout en tournoyant dans la pièce, d'une façon délicieuse, on dirait une fée. Elle tournoie autour de la pièce en faisant des gestes gracieux avec ses bras. Or, les bouts de sa robe tournent d'une façon merveilleuse. Ils sont tous éblouis, émerveillés par elle. Plus rien n'existe que cette fée qui tournoie dans la pièce.
Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Puis, une fois que la chanson est finie, elle est tombée à la renverse, évanouie. Ça court et se penche sur elle, ouvre les yeux, enfin lui demande, que vous est-il arrivé? Elle lui dit, le cœur qui a la chamade, c'est normal, entouré de tous ces hommes. Mais ça va passer. Elle se redresse. Franck lui demande, vous êtes malade? Elle lui fait, non, juste le cœur, un peu fatigué. Vous devriez vous soigner, des médicaments? Elle lui fait, surtout pas, je prends des plantes. La médecine, les médicaments, ça détruit tout. C'est ma grand-mère qui vient de la campagne. C'est elle qui m'apporte les plantes qu'il faut. Et elle a aidé le docteur Morel à créer son élixir pour les jeunes en chaleur. Alors, elle me prépare des tisanes, des drogues, comme pour le mal de gorge. Et elle ne vaut le miel au vinaigre. Franck lui dit, faudra tout de même faire très attention. Elle lui fait, mais je suis prête à rechanter. Il lui dit, pas ce soir. Elle lui fait, oui, vous avez raison. Pascal dit à la momie, cette soirée va te donner un sujet pour une de tes histoires. Je tiens vraiment. Franck demande, quelle histoire? Pascal lui dit,
parce qu'il écrit des histoires. Il en a même fait une pour moi, où je tue le pauvre Frédéric. La momie sourit. Franck se dit, tu dois être un idiot qui passe son temps à écrire des stupidités. On amène Frédéric s'asseoir dans un fauteuil. Fred lui demande, tu veux boire quelque chose? Elle lui dit, un jus d'orange. Il va la servir. Tiens, merci. Pascal lui demande, tu vas mieux? Elle dit, tout à fait bien, ma chérie, ne te fais pas de soucis. Elle boit une gorgée. La momie regarde sa montre et dit, oh mon Dieu, il est 5h déjà. On n'a pas vu le temps passer. Fred dit, il serait peut-être temps de s'en aller. Pascal dit, oui, bien sûr. Tout se lève. Frédéric, radieuse, dit, eh bien, je vais vous raccompagner. Pascal lui dit, tu raccompagnes Franck et François, mais nous avons à te parler. Frédéric lui dit, c'est un peu tard, ma chérie. Nous n'avons pas pour longtemps. Frédéric lui dit, bien, puisque tu y tiens, ma chérie, venez, je vais vous raccompagner. Et elle raccompagne François et Franck vers leur voiture. Elle les embrasse et leur dit, merci d'être resté, vous m'avez rendu un très grand service. Rentrez bien. Et elle retourne à la maison. Franck dit à François, elle est bizarre, il faudra peut-être attendre un peu. Ils entendent la voiture et attendent un moment. Frédéric retourne à ses invités au salon. Pascal lui dit, c'est pourquoi nous sommes venus. Elle lui fait, oui bien sûr, mais j'ai plus rien à mon compte. Pascal lui fait, ah bon, mais je crois que tu as tes bijoux. Frédéric lui dit, oui mes bijoux, peut-être. Pascal lui dit, je suis venu avec mes amis. Frédéric lui dit, mais moi je peux appeler Franck. La momie lui dit, il n'est pas venu seul et je peux m'occuper de son petit ami. Elle lui dit, je le sais, sale cochon, tu en serais bien capable. Il lui dit, et je pourrais écrire ton histoire, comme ça tout le monde pourra la connaître. Elle lui dit, ça ne m'étonnerait pas, vous aimez fouiller dans les oubliettes. Fred lui dit, tu sais que je suis ingénieur et que je m'y connais pour faire disparaître les gens. Justement, une centrale n'est pas très loin d'ici. Jean-Yves lui dit, et moi je connais des prises pour paralyser les gens. Alors tes deux amis? Pascal lui dit, électrocuter pour l'un et donner en pâture à l'un de nos amis l'autre. La voiture n'a pas démarré, dis-leur de s'en aller. Elle leur dit, faites une belle équipe, va. Et elle va à la fenêtre, l'ouvre, fait des grands signes et dit, au revoir, à bientôt, et la voiture démarre. Elle referme la fenêtre. Elle va vers eux. Pascal lui dit,
Alors tes bijoux sont dans ma chambre. Nous y allons.
Et ils suivent Frédéric, qui monte les escaliers pour aller à sa chambre. Grande pièce avec de beaux meubles en chêne. Elle va à son secrétaire. L'ouvre. On sort un coffre. Un coffre sculpté avec une clé. Il est plein de bijoux. Pascal lui dit. Tu peux nous donner le tout ? Frédéric lui dit. Je n'aurai plus rien après. Pascal arrache le coffre des mains. Frédéric, furieuse, la gifle et lui dit, tu es vraiment une garce, toi. Pascal lui dit, pense ce que tu voudras, ma vieille. Mais moi, depuis que j'ai perdu Guillaume, qu'il est parti en Amérique du Sud, après m'avoir assassiné, j'ai qu'un but dans la vie, c'est m'enrichir. Et j'ai décidé, c'est de n'aimer plus personne. Frédéric lui dit, si je tenais le médecin qui a réussi à te sauver, mais pourquoi est-ce que tu t'es tiré ici si tu cherchais la fortune? Pascal lui dit, parce qu'une voyante m'a dit que je trouvais ici quelqu'un qui m'aiderait, et c'est toi. Et dire que je t'ai prise pour mon ami. Pascal lui dit, j'y suis pour rien. Frédéric dit, oui, je sais. J'ai aimé d'un amour fou le fils du garde-chasse. Lui aussi m'aimait. Mon père ne voulait rien entendre de cette union parce qu'il avait décidé c'est de se présenter aux élections pour être député. Alors bien sûr, un député qui a une fille qui veut se marier avec un rien du tout. Mon amant venait me voir tous les soirs. Une nuit, il est tombé dans un de ces trous que mon père avait la manie de faire. Et, en tombant, il est mort. Paniqué, j'ai appelé mon père, qui a décidé, pour éviter le scandale, c'est de boucher le trou et d'y planter des fleurs. Moi, j'étais comme folle, perdue. Je m'étais enfermée dans ma chambre. Comme tu étais ma seule amie, je t'ai appelée pour tout te dire. Tu es venue. Et puis, je t'ai tout raconté. J'étais perdue. Et toi, tu en as profité. Garce ! Pascal lui dit. Oui, c'est normal, non ? J'ai prévenu mes amis, Frédéric a tout de suite dit oui. Il a eu besoin d'argent. Il s'est lancé dans une affaire de radio et veut s'acheter une belle maison à l'Ardèche. Alors tu penses, Jean-Yves veut ouvrir un centre de rééducation et Jean-Pierre rêve d'une cure de rajeunissement et de faire des films hard. Frédéric lui dit, eh bien, vous avez tout ce que vous voulez. Les bijoux de ma grand-mère, qui viennent de ses aïeux, qui les ont eus de la collection de Marie-Antoinette. Pascal lui dit, merci, ma chérie. Ouais. Et ils sortent de la chambre et de la maison. Vers la voiture. Avant d'entrer dans la voiture, Pascal lui dit, nous reviendrons. Frédéric lui dit, ne te presse pas, ma chérie, attends un peu. Frédéric entre dans la voiture. C'est lui qui va conduire. Pascal se met à côté de lui, Jean-Yves et Jean-Pierre derrière. Frédéric dit « Je vais vous conduire. Il faut que vous reculiez jusqu'à la plateforme là-bas, puis faire demi-tour, puis vous pourrez partir. On ne peut pas faire autrement. » Frédéric va mettre la voiture en route. Frédéric lui dit « Recule, recule, allez, recule !» Il se recule, encore, encore. Le sol a craqué sous la voiture et elle est tombée. Frédéric dit « Oh mon Dieu, j'avais oublié que père a bouché les trous avec des planches qui ont pourri. Les roues sont toutes les quatre dans le trou et la voiture est enfoncée, disons, jusqu'à de moitié. Les portes sont cabossées, ne peuvent plus sortir. Et malgré tout, ils essayent d'ouvrir. Crie au secours! Au secours! Au secours! Frédéric court à eux et dit en essayant: je ne peux pas, je ne suis pas assez fort, je ne peux pas. Frédéric lui dit: appelez une dépanneuse. Elle dit: attendez, j'ai une meilleure idée. Et elle s'éloigne. Elle entre dans une remise. Fred dit: merde! Moi qui veux faire du vélo, demain matin, je vais y aller à quelle heure? Frédéric revient avec eux. Frédéric revient avec un bidon et un extincteur pour arrêter le feu. Il leur dit: attendez! Elle ouvre le bidon. Fred lui demande: mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Mais non! Elle asperge la voiture d'essence. Ils sont effrayés. Il leur dit: ne vous en faites pas! Je ne crains rien. J'ai prévu, tout prévu pour éviter que la maison ne prenne feu. Il crie. Elle leur dit: bon voyage! Allez! Et elle allume une allumette et la jette sur la voiture. La voiture s'enflamme. Ils crient, ils hurlent. Au secours, au secours, au secours, au secours. Le feu devient de plus en plus important. Il y a de la fumée. On n'entend plus leurs cris. Mais se dit qu'ils ont dû être assistés. Les flammes grandissent de plus en plus. Heureusement qu'il n'y a pas de vent. Elles montent. Frédéric tourne, tout heureuse, autour du feu. Et en même temps, ça sert pour éviter que le feu se propage.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un pas de bail. Ça fait déjà un pas de bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu.
Une explosion. deuxième explosion. De la fumée de plus en plus noire, des flammes de plus en plus hautes. Puis, elles descendent. La fumée disparaît petit à petit. On peut voir ce qui reste de la voiture. L'intérieur de la voiture, c'est du noir. Alors, elle prend une grande pelle de neige pour taper et faire descendre profondément les débris, ce qui reste de la voiture. Une fois que c'est descendu, que tout est descendu au fond du trou, enfin ce qui reste des planches, elle a fait livrer de la terre qu'elle a fait déposer près du trou. Avec la pelle, elle bouche le trou.
Mais mûre plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant. La colle s'est oubliée le temps. Je suis réveillée en tentant. Les vêtures ont non.
Après plusieurs heures de travail, parce que le trou était grand, elle a mis du gazon en rouleau et planté des fleurs. Il ne reste rien. Tout est impeccable.
Elle est retombée dans mes bras. Elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé.
Elle est heureuse.
Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie.
Pour une fois, son père a fait un trou qui a servi à quelque chose.
Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on
puis,
s'est connu, on s'est
elle est rentrée chez elle. Déshabillée, un bon bain. Le lendemain matin, elle se réveille. Il est 11h30. Elle n'a pas beaucoup dormi, mais suffisamment. Elle décroche. Le téléphone était sur la table de nuit. Allô ?
C'est moi, ta mère. Tu vas bien ?
Oui, très bien, maman.
Tout d'un coup, je me suis sentie libérée. Je compte vendre mes bijoux et faire un voyage.
Ta mère lui dit.
Tu te sens vraiment bien alors ? Je t'amène les bijoux ?
Oui. Et tu diras à tante Julie que j'ai perdu les Sévéreries. Ta mère lui dit.
Ça n'a pas tellement d'importance. Tu parles des bijoux en toc. Je suis très heureuse, c'est que tu décides enfin de revenir à la vie. Tout le monde se demandait ce que tu devenais. Je te trouve tellement belle, délicieuse. T'es une vraie fée. C'était complètement stupide de t'enfermer là-bas.
Tu vas partir seule ? Elle lui dit.
Je ne sais pas. Peut-être avec un ami. Je verrai. Je verrai bien.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui fut fatale, de femme fatale qui fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé.
Arrivés à Lyon, nos deux amis sont allés se coucher dans l'appartement abandonné. Franck a déshabillé François et l'a allongé, puis s'est couché. Il a peur que l'enfant soit trop fatigué, puis il s'est endormi. Se lève parce qu'il a travaillé. Ça a réveillé l'enfant. Il lui dit, reste encore un moment allongé. Tu as besoin de dormir. Je te laisse un peu de pain et du sucre. François, dans ses bras, au cou de Franck, et lui dit, j'ai encore sommeil. Franck le dégage et l'allonge. Il se lève. S'habille. Et Franck sort de la pièce. François dort. Il se sent bien, très bien. Il se réveille, fait grand jour et chaud, il s'étire et se lève. Lui aussi s'habille. Il prend le morceau de pain et le sucre et va le manger sur le rebord du lit. Il se demande ce qu'il va faire. Une fois qu'il a fini de manger, il va à la fenêtre. Il voit que tout est calme. Il fait très doux. Il n'a pas envie de sortir. Elle est où? Quoi faire? Il a passé une soirée agréable avec des gens si charmants. Frédéric est tellement délicieuse. Et on sent une grande amitié entre elle et eux. Comme c'est bon d'avoir des amis. Lui a Franck et veut toujours le garder. Il se demande si Franck se marie, si sa femme voudra bien qu'ils se voient. Mais il le faudra bien, parce qu'ils sont inséparables, non? Tout à coup, il voit des bouchers dans la rue, quatre garçons qui courent en riant. Il leur crie « Attendez, je descends !» Et il va les rejoindre. Passe sa journée à courir dans les rues. Les rues dépendent de la Croix-Rousse. C'est leur domaine. En bas, arriver à la place des terreaux, c'est pas la même chose. C'est un autre monde, moins pittoresque. En passant rue du Sergent-Blandan, ils sont allés voir si Pierre Max n'y était pas à la radio. Pierre Max est pour les enfants comme une espèce de personnage de dessin animé. Il regarde à travers les vitres et voit qu'il est là, à la radio. Pierre Max est au studio. Il fait son émission. Les jeunes ouvrent la porte et entrent. Pierre Max se retourne et dit « Oh, Mimi !» La personne qui est à la régie lui dit « Pierre Max, tu es à l'antenne !» Pierre Max dit au micro « C'est mes Mimi qui sont venus me dire un petit bonjour !» Les enfants l'entourent et rient. Pierre Max voit François et dit «
Oh, qu'il est mignon celui-là, Mimi. François se laisse embrasser. Il lui dit, je suis le fils de Robert. Yamash se dit, je n'aime pas ton père, il est de gauche, il veut me faire partir de la radio. Tu lui diras de me laisser tranquille. Laetitia dit, Pierre Max, on est à l'antenne. Pierre Max lui dit, on s'en fout, on n'est pas à Europe 1, et puis c'est du direct. Les enfants lui disent, bon, eh bien, on te laisse. Oh, déjà ? Et les enfants le quittent. Ils descendent jusqu'à la place des terreaux. Là, c'est pas la même chose. Ce n'est plus leur quartier, leur rue. Les rues sont plus grandes ici, larges. C'est ce que l'on appelle la ville. Les Lyonnais disent la ville quand ils sont dans la presqu'île. Parce qu'ils disent qu'ils sont en ville parce que c'est le centre et que ça ressemble plus à une grande ville. Ils disent même ça en ce moment, alors que le centre de la ville est encore plus délabré que le reste de la ville. Et peut-être même plus, parce que pour la plupart des manifestants, les émeutes se passent plus dans le centre. Parce que c'est là que se trouvent les grands ennemis. La mairie centrale, la préfecture, la place des terreaux ressemble à une place d'Inde, avec des jeunes habillés de chiffons multicolores. Ils y campent, jouent de la musique et se lavent dans la fontaine. C'est l'Inde. L'hôtel de ville, les étages ont été brûlés. Le palais Saint-Pierre, il ne reste plus que des pierres. On dirait des ruines antiques dans un jardin. Au milieu de ces ruines se trouvent des statues. Des statues qui semblent sortir de terre. Imaginez-vous, à la place du palais Saint-Pierre, des blocs de pierre à terre. Des colonnes debout et quelques statues au milieu d'une végétation sauvage. Et des enfants qui jouent dans ces ruines. L'opéra de Lyon, il ne reste que carcasses de métal qui a rouillé. Des jeunes s'amusent à les escalader. Certains s'y suicident. C'est l'endroit où on se suicide le plus. La rue de la République, les magasins, cinéma, etc. sont fermés. On prit feu ou on les a saccagés. La rue est devenue un repère de bandits. Une espèce de cour des miracles où il y a tout le long de la rue des vendeurs de tout. Thank you.
nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.